Mamou, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé.
Elle est moi. Tranche de vie, une émission proposée par JF.
Qui donne sur l'entrepôt, elle est toi. On va pas à Saint-Paul de Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin.
Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes dans l'atelier de Pascal, à Saint-Léon-sur-Lille. Une bonne odeur de sciure, de bois flotte dans l'air. Nous sommes entourés de machines et nous nous sommes assis dans le petit bureau attenant à cet atelier pour parler avec Pascal de son métier, qui est un métier du bois. Pascal, comment vous est venu l'amour du bois? Comment êtes-vous devenu ébéniste?
Bonjour Jean-François, merci d'être venu. Mon amour du bois remonte à très longtemps. Mon papa travaillait le bois déjà. Et tout petit, je le suivais, je rangeais ses outils et la passion m'est venue comme ça. Voilà, en voulant imiter mon papa. Voilà.
Vous avez fait quel parcours professionnel?
J'ai fait tout simplement un CAP, un BEP à Limoges, au lycée Majambo de Limoges. Voilà. Et après, on apprend sur le tas. Et puis j'ai fait tout au long de ma vie, là, j'ai fait des stages pour apprendre différentes techniques.
Ah, donc vous êtes perfectionné pendant toute votre vie et vous avez quand même une prédilection particulière pour les vieux meubles, les meubles anciens, les meubles régionaux.
Le métier d'ébéniste, c'est un métier de passion. Et donc, dans ce métier, il y a deux activités. Il y a la fabrication de meubles, qui peut être meubles contemporains ou meubles copies de style. Et il y a la deuxième partie, qui est restauration de meubles, et qui est quand même assez intéressante. Parce que les anciens, les ouvriers qui avaient fait ces meubles depuis plusieurs siècles étaient de très bons ouvriers. Déjà, les meubles étaient fabriqués tout à la main. Et on a des qualités de travail exceptionnelles. Et restaurer ces meubles-là, donc leur redonner vie, c'est vraiment du plaisir. On est obligé de redécouvrir les gestes des anciens, comment ils avaient pu réaliser certaines pièces et tout. Et donc c'est très valorisant et puis c'est du patrimoine qu'on remet en état et ça me passionne.
Parce que évidemment, oui, c'est ce que vous dites. En même temps, vous avez cette passion de redonner vie à du mobilier ancien ou des choses anciennes, mais qui ont été faites dans des conditions beaucoup plus difficiles que vous, avec des outils qui étaient moins perfectionnés. Et donc, vous apprenez tout en trouvant du plaisir à cette restauration.
Oui, c'est tout à fait ça. Les machines ont apparu à peu près vers 1850. Donc, les meubles qu'on restaure, il y en a certains qui ont été faits bien avant. Là, j'ai restauré un meuble Régence, donc c'est à peu près 1740. Et donc, on trouve des techniques et des assemblages suivant les styles différents. Et donc il faut se remettre à l'époque où il y avait quand même des ateliers où il y avait quand même beaucoup d'ouvriers, même sous Louis XIV par exemple, et il y avait des artisans qui étaient spécialisés dans telle ou telle partie ou finition de meubles. Il y avait les gens qui travaillaient le bronze, il y avait les serruriers, il y avait ceux qui faisaient toute la quincaillerie, les fiches, les gens qui faisaient les finitions, et voilà, c'était tout un ensemble de métiers.
Alors, parlez-nous un petit peu de l'expérience que vous avez pu acquérir tout au long de votre vie professionnelle des mobiliers régionaux et en particulier, évidemment, de ce qu'on peut rencontrer en Dordogne.
Alors, en fonction des régions, donc les ébénistes, c'était surtout des menuisiers ébénistes, parce que l'artisan qui était en campagne, eh ben, il faisait aussi une porte, une fenêtre, il pouvait restaurer un meuble aussi. Donc voilà. Et en fonction des régions et des bois locaux, par exemple en Dordogne, donc c'est beaucoup de noyers et de merisiers. Après, dans les pays de l'Est, ça peut être beaucoup de chênes. Après, en Bretagne, ça peut être du pommier, du poirier et du chêne aussi. Voilà. Donc, c'est en fonction des bois locaux. Ils utilisaient les bois locaux. Voilà. Donc, chez nous, on utilise noyer, merisier, châtaignier, peuplier, voilà, du cèdre, voilà. Donc, le noyer, enfin, quand même pour moi, le plus joli bois qui existe en France.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le bois noble, avec aussi peut-être les bois fruitiers que vous évoquiez et dont on fait grand cas dans l'immobilier régionaux.
Oui, donc le noyer, c'est un fruitier, ça fait des noix. Le merisier ou cerisier, voilà. Donc, c'est le même arbre. Et donc, après, tout ce qui est bois d'intérieur, peuplier ou châtaignier, qui sont des bois qui ont de grande qualité. Voilà. Le châtaignier a été délaissé pendant très longtemps, mais c'est dommage parce qu'il a énormément de qualité.
Alors, je retiens que votre préféré, c'est quand même le noyer, qui est quand même un arbre périgourdin par excellence.
Oui, mais le noyer, on l'économise avec parcimonie. On fait bien attention à ne pas le gaspiller tellement il est précieux. Donc, le noyer sert uniquement à faire donc les façades, tout ce qui est apparent. Alors, on ne va pas se mettre à faire des étagères en noyer, ça serait du gaspillage.
Alors, pour l'intérieur, pour les étagères, pour l'arrière des meubles, vous utilisez quel bois ?
Donc, châtaignier ou peuplier, voilà, en principe.
Est-ce que vous avez une clientèle fidèle ? Est-ce que les gens, est-ce qu'il y a toujours une affection pour les meubles anciens qui amène les gens à vous demander des restaurations, voire des copies à l'identique ? Ou bien est-ce que, au contraire, il y a une désaffection actuellement ?
On a une clientèle qui est passionnée, de gens passionnés qui nous font restaurer des meubles, qui nous font fabriquer des meubles. Et il y a quand même une désaffection pour le meuble ancien. Et donc c'est dommage parce que c'est du patrimoine et puis ça a quand même un autre cachet qu'un meuble en aggloméré.
Bien sûr, voilà, je partage votre point de vue, mais cette désaffection, elle tient à quoi ? À votre avis, au coût des meubles anciens ou...
Donc, moi, ça fait une trentaine d'années que j'exerce. Au niveau des finitions, par exemple, les finitions sont de plus en plus éclaircies. Donc, il y a 30 ans, on faisait un noyer foncé. Et puis, maintenant, on arrive et on a des nouveaux produits qui nous permettent de finir un meuble en gardant l'aspect du bois brut. Donc, les gens recherchent de plus en plus des meubles très très clairs, voilà. Donc, et alors le noyer qui est assez foncé, donc voilà. Mais voilà, je pense que il y a un problème aussi d'éducation. Les gens sont pas éduqués, ne connaissent pas la qualité, la valeur des meubles, et voilà. Et c'est bien dommage pour nous.
Vous voulez dire qu'ils ne connaissent pas les styles ou qu'ils ne s'y intéressent pas?
Oui, tout à fait. Parce que le style des meubles français est lié à l'histoire de la France. Et donc, c'est quand même passionnant, au travers des styles, de revoir l'histoire de la France. Et c'est quelque chose de passionnant. Et j'avais fait, avec notre syndicat professionnel et plusieurs collègues, il y a quelques années, on était allé faire un stage avec un expert en sièges et meubles du 18e. Donc c'est quand même le 18e où il y a quand même de très très beaux meubles. Et donc on avait visité plusieurs musées, on était allé au Louvre, on avait vu des choses fantastiques. Ce sont vraiment des chefs-d'œuvre, voilà.
Alors, de même qu'aujourd'hui, il y a Ikea et puis il y a du mobilier de meilleure qualité, est-ce que vous arrivez à déceler, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer comme ça des choses qui ont été faites à la campagne d'une manière un petit peu expédiée, et puis au contraire, des meubles extrêmement raffinés, comme ce mobilier du XVIIIe siècle dont vous parliez tout à l'heure ?
Oui, les ébénistes actuels sont capables de faire des meubles magnifiques. Et vous pouvez aller regarder les chefs-d'œuvre qu'ont fait les compagnons du Tour de France. Ça vous donnera à peu près une idée de ce qui peut se réaliser. Et on a les collègues et moi, quelquefois, on a quand même des demandes assez surprenantes d'ensemble de meubles qui sortent vraiment de l'ordinaire et où on a vraiment grand plaisir à fabriquer.
Une petite incursion du côté du travail des outils maintenant. Est-ce que vous avez des outils qui vous ont facilité la vie considérablement récemment? La dernière fois que nous sommes rencontrés, vous m'avez parlé d'une sableuse qui vous permettait de décaper les meubles d'une façon vraiment merveilleuse.
Oui, donc j'ai découvert il y a un peu plus d'une année donc une machine qui s'appelle une aérogommeuse, donc c'est le système de la sableuse, mais en beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, et qui permet de décaper des meubles dans les moindres recoins d'une façon extraordinaire. On ne peut pas faire mieux, c'est vraiment très, très, très bien. Donc on peut vraiment restaurer les meubles, les décaper maintenant d'une façon formidable, et donc on peut... Donc aussi refaire des finitions un peu plus actuelles sur certains meubles, ce qu'on fait d'ailleurs souvent. Voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est parfaitement décapé, le support n'est pas gras, et on peut réappliquer des produits de finition dessus pour faire de la couleur, pour faire enfin, ce qu'on veut. Et c'est vraiment, ça nous facilite la vie quoi, énormément.
Ouais, parce que j'imagine qu'auparavant, vous faisiez tout ça à la main, et ça devait, enfin pour les moulures, ça devait être un travail très pénible, très long.
Voilà, alors pour les moulures, l'aérogommeuse, c'est extraordinaire. Ça va dans tous les recoins, ça va partout. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on n'utilise plus de produits chimiques. On utilise une espèce de granulat qui ressemble à un sable très très fin, et qu'on peut réutiliser à volonté. Donc c'est quand même, au niveau, pour l'environnement, c'est quand même une bonne chose.
S'agissant des goûts des gens, est-ce qu'au cours de votre vie professionnelle, vos 30 ans d'activité, déjà, vous avez vu évoluer le goût des gens? Est-ce qu'il y a un regain d'affection pour les meubles anciens, ou bien est-ce qu'au contraire, les gens ont tendance à s'en détourner, et si oui, pour quelles raisons?
Le souci, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés au style. Et donc, finalement, ils suivent le matraquage de l'industrie du meuble. Et donc, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, on a certains meubles qui sont très... Enfin, le contemporain peut être très, très beau. Voilà. Mais bon, ce qui se fait actuellement, et le souci, c'est que c'est du meuble jetable, donc c'est-à-dire on consomme des arbres, on utilise de l'énergie pour fabriquer ces meubles qui seront jetés dans 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est quand même bien dommage pour la planète. Voilà.
Là, je vois apparaître vos préoccupations écologiques que je connais bien et dont vous allez avoir l'occasion de nous reparler un petit peu. Actuellement, est-ce que vous avez perçu un fléchissement dans votre activité lié au fait que les temps sont durs pour tout le monde?
Oui, il y a un fléchissement assez important. Donc, d'ailleurs, tous les collègues sont OK avec ça. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ébénistes qui se tournent vers la menuiserie, l'agencement, voilà, pour continuer à faire tourner leur atelier. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de commandes de meubles.
Vous voulez dire des agencements intérieurs, des agencements de cuisine, des choses comme ça?
Aménagement de magasins aussi, oui, voilà.
Pascal, vous avez la passion du bois, la passion des meubles anciens, du travail bien fait, mais vous avez aussi d'autres passions. Alors, je voudrais maintenant que vous nous parliez un petit peu de ces autres passions. Vous êtes un homme qui aimait la nature, qui aimait la campagne. Quelles sont vos autres passions?
Ben, ma passion, une de mes passions, c'est de rencontrer des gens sympathiques, comme Jean-François, que je connais depuis très longtemps et qui m'apporte beaucoup de choses. Donc ça, c'est formidable. Et puis, depuis quelques années, Donc j'ai la passion des chevaux. Et donc le cheval crée du lien social. Donc ça nous permet de rencontrer énormément de gens. Et j'essaie d'apprendre continuellement pour avoir une meilleure approche. Par exemple, le week-end dernier, j'étais dans le Lot et j'ai un ami qui m'a donné des cours d'attelage en paire. Donc il attelle deux chevaux avec, ce sont des frisons, des chevaux hollandais. Et c'est Edwin, pardon, je suis enrhumé. Edwin m'a expliqué la finesse du menage. Donc au lieu, on pourrait croire que la bouche d'un cheval, il faut tirer à 10 kilos. Non, c'est quelques grammes suffit, juste une petite indication, et le cheval, il tourne tout seul. Et c'est quand même assez magique. Donc il m'a fait, j'étais quand même assez fin dans mes ordres, avec mes chevaux, mais là, il m'a fait monter d'un cran supplémentaire pour être encore plus fin, encore plus léger.
Vous êtes un homme qui aime apprendre et qui continue à apprendre. Donc, vous êtes un cavalier, surtout de randonnée, et qui se tourne progressivement un petit peu vers l'attelage. Il me semble que vous m'avez montré un char à banc que vous êtes en train de restaurer, magnifique, dont vous avez refait les roues vous-même, d'ailleurs. Dites-nous, parlez-nous un petit peu de cette équitation de randonnée qui vous passionne, et puis de ces prolongements aussi que vous êtes en train d'explorer.
Ben l'équitation de randonnée, c'est une équitation de loisirs. Souvent, on part à plusieurs cavaliers ou cavalières et cavalières. Et puis donc, on part sur un petit week-end ou on peut se faire une semaine de rando ou un peu plus. Et donc là, ben, c'est la convivialité. On découvre, donc on essaie de faire des parcours en itinérant, c'est-à-dire que chaque soir, on dort dans un endroit différent. Donc on est toute la journée avec nos chevaux. Évidemment, on ne regarde pas la télé ni notre téléphone. Et donc ça permet de d'évacuer et de se décompresser complètement. Et dès qu'on monte à cheval, c'est l'aventure. Donc ça, c'est... On est toujours des enfants avec les chevaux.
Mais à l'étape, quand vous faites ces randonnées de plusieurs jours, vous campez ou alors vous avez des points de chute préparés à l'avance ?
Oui, en principe, on a quand même préparé le terrain pour avoir un minimum de confort. Mais j'ai hébergé des cavaliers au long cours. J'ai hébergé un couple il y a 2 ans qui ont fait un tour de France à cheval. Donc ils avaient 4 chevaux, donc 2 chevaux de selle et 2 chevaux de bât. Et là, ils étaient en autonomie, c'est-à-dire qu'ils avaient tout le matériel. Mais ça, c'est le rêve de tout cavalier randonneur, de faire ça. Mais bon, matériellement, il faut avoir le temps de se dégager plusieurs mois pour faire ça. Et ensuite, j'ai rencontré l'année dernière un jeune couple, qui avait autour de 25 ans, et qui partait du centre de la France et qui allait en Géorgie. Donc là, c'est un voyage sur 2 ans. Donc ils avaient pareil, un cheval de selle chacun, un cheval de bât avec tout le matériel. Et là, c'est vraiment une belle aventure aussi. J'ai lu aussi un livre il y a quelques années, et c'est un monsieur qui s'appelle Émile Brager, qui est parti de Patagonie et qui a fait un voyage jusqu'au Canada. Donc avec sa compagne, ils avaient 3 chevaux et une mule, et ils ont mis 4 ans pour faire le voyage. Donc ça c'est des histoires formidables.
Je sens que vous êtes tenté et qu'un jour vous allez entreprendre un voyage comme ça qui donnera lieu à un livre où vous raconterez cette épopée. Mais alors, le cheval, vous êtes en train d'explorer depuis quelque temps ces prolongements. Là, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre apprentissage de l'attelage et de ses finesses. Mais qu'est-ce que vous construisez depuis quelque temps aussi qui va avec le cheval ?
Ben, j'ai eu la demande il y a quelques années, si quelqu'un voulait que je lui fabrique une roulotte hippomobile. Donc finalement j'ai fait 3 roulottes, donc une pour le monsieur en question et 2 pour moi. Et donc suite à ça. Ben j'organise des randonnées en roulotte, donc autour de Grignoles. Et donc ça a démarré l'année dernière au mois d'avril. Et puis donc là, ça se poursuit cette année. Et c'est formidable parce qu'on rencontre des gens qui arrivent des quatre coins de France. Là, vendredi, j'ai des gens qui arrivent de Bayonne, de Bordeaux, un petit peu partout. On fait des rencontres formidables. Et puis, pour moi, c'est passionnant de transmettre ma passion. Voilà.
Mais alors, vous parlez de roulottes hippomobiles. Ça, c'est des roulottes à l'ancienne que vous avez construites alors, en bois, qui sont... faites exactement comme les roulottes qu'on voyait encore circuler des gens du voyage il y a une cinquantaine d'années.
Ah, elles ressemblent, mais bon, les matériaux sont quand même... J'ai utilisé des matériaux nouveaux qui sont beaucoup plus légers, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire trop lourd. Donc la préoccupation quand on fabrique une roulotte, c'est que ce soit le plus léger possible, voilà. Donc maintenant, on a quand même tout un tas de matériaux. On peut faire quelque chose de solide et de léger. Et donc, ce qui fait que mes roulottes font autour de 500 kg. Et les roulottes classiques qu'on faisait il y a 20 ans, elles faisaient 1,2 tonnes. Alors, la différence, au bout d'une semaine, le cheval, il sent vraiment la différence.
Je pense que ça fait une grosse différence pour le cheval. Et puis, peut-être aussi pour les utilisateurs. Parce que vous avez sans doute ajouté du confort à ce moyen d'existence mobile. Vous avez un site
oui.
Où on peut se renseigner sur la location de ces roulottes. Allez-y, donnez-le à nos auditeurs, parce que je pense que ça intéressera des gens.
Donc c'est Périgord, roulottes, vacances, le site est .net, voilà.
Périgord, roulottes, vacances au pluriel, tout attaché.
Non, en séparé, mais sur Google, ça sort directement.
Pascal, vous êtes un homme libre, manifestement. Je pense que vous êtes heureux, mais je sais que vous avez aussi des préoccupations éthiques et qui font que votre bonheur n'est pas complet. Et pourquoi ?
Il y a quelques années... J'ai entendu parler un patron d'une grande entreprise qui gagnait très bien sa vie, donc ce qui n'est pas mon cas, lui gagnait très très bien sa vie, et qui disait « J'ai du mal à être heureux quand je vois toute la misère qu'il y a autour de moi. » Et je me rends compte dans ma petite sphère que finalement, les conditions des vies des gens se dégradent, la précarité s'installe, et tout ça me navre beaucoup. Donc... je pense qu'il faut faire notre maximum pour s'aider les uns les autres, pour essayer d'être juste. On est de passage sur Terre pas longtemps. Et voilà. Et puis s'entourer de gens. Il y a plein de gens sympas. Mais ce qui serait bien, c'est que la situation économique s'améliore et que les gens aient moins de difficultés à faire leur fin de mois. Voilà.
Pascal, merci pour ce message d'espoir que vous nous délivrez. Et continuer à exercer vos passions dans toutes les directions.
Maman.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Le soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt, elle et toi. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville est sans sommeil, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour des magazines, elle travaille en usine à Créteil.